Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. Au menu, les Nations Unies marquent le 10e anniversaire du séisme en Haïti. Nous entendrons le témoignage de Michel Montas. Haïti toujours, cette fois avec le PAM qui tire la sonnette d'alarme. Plus d'un Haïtien sur trois est en insécurité alimentaire grave. Enfin, la chef des droits de l'homme dénonce l'échec du cessez-le-feu à Idlib, en Syrie.
Excellence, mesdames et messieurs, chers collègues et amis.
Les Nations Unies ont rendu hommage vendredi aux victimes du tremblement de terre qui a dévasté Haïti le 12 janvier 2010. Réunis au siège de l'organisation à New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et les fonctionnaires des Nations Unies ont participé à une cérémonie du souvenir pour les centaines de milliers d'Haïtiens ainsi que leurs 102 collègues tués lors du séisme. On écoute l'hommage d'Antonio Guterres.
Lorsque le tremblement de terre a frappé, de nombreux Haïtiens entamaient la nouvelle année avec un sentiment renouvelé d'optimisme et de confiance dans l'avenir de leur pays. En quelques secondes, leurs espoirs sont devenus poussière. Des villes ont été détruites, des centaines de milliers de personnes ont été tuées et des millions de vies ont changé pour toujours. Je n'oublierai jamais le choc et la tristesse à travers le monde et dans l'ensemble des Nations Unies à mesure que l'ampleur de la tragédie est devenue claire. Une opération humanitaire sans précédent a sauvé des vies au cours des premiers jours et des premières semaines grâce au travail main dans la main des organisations d'aide internationale et des premiers intervenants haïtiens et partenaires locaux sur le terrain. Mais le tremblement de terre a créé de nouvelles menaces sérieuses pour la sécurité, la stabilité et la prospérité d'Haïti. Se remettre des nombreuses blessures infligées par une telle catastrophe, blessures physiques, émotionnelles, sociales et financières, représenterait un grand défi pour n'importe quelle nation.
Et comme pour illustrer le programme alimentaire mondial, tire la sonnette d'alarme ce vendredi. Plus d'un Haïtien sur trois est dans une situation d'insécurité alimentaire grave en raison de la crise économique, des troubles sociaux et de la baisse de la production agricole. Pour mieux comprendre ce que cela veut dire, on écoute les précisions d'Elisabeth Birz, porte-parole du PAM à Genève.
Cela veut dire que 3 700 000 personnes ont besoin d'assistance alimentaire et que parmi ces 3 700 000 personnes, il y en a 1 million qui souffrent vraiment de la faim. Donc ces 1 million de personnes doivent, pour survivre, soit adopter des stratégies, c'est-à-dire sauter un repas ou manger vraiment très peu, ou vendre tous leurs biens pour pouvoir survivre. En 2019, 300 000 enfants ont été aidés par le programme alimentaire mondial. Mais il faut encore faire plus, car justement avec les niveaux d'instabilité actuels, le déclin économique, la production agricole qui chute, la gourde, la monnaie haïtienne qui se dévalue, de plus en plus de personnes tombent dans l'insécurité. Et parmi ces 1 million de personnes qui ont vraiment besoin d'assistance, eh bien 80% sont des femmes et des enfants.
La chef des droits de l'homme des Nations Unies, Michelle Bachelet, a appelé ce vendredi à une cessation immédiate des hostilités à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Selon elle, le cessez-le-feu annoncé il y a près d'une semaine a une fois de plus échoué à protéger les civils. Jeremy Lawrence, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.
La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a appelé à la cessation immédiate des hostilités à l'intérieur et autour de la zone de désescalade d'Idlib en Syrie. Elle a également plaidé pour la protection des populations et des bâtiments civils. La principale préoccupation reste la sécurité des civils qui sont exposés à de graves risques. Si la poursuite d'un cessez-le-feu est bien sûr à encourager, cet accord, comme d'autres l'année dernière, n'a pas réussi une fois de plus à protéger les civils. Depuis l'application d'un cessez-le-feu le 12 janvier dernier, des civils continuent d'être tués. Selon Mme Bachelet, il est navrant de constater que des civils sont encore tués quotidiennement par des tirs de missiles tant aériens que terrestres. Des femmes, des hommes et des enfants qui ne font que mener leur activité quotidienne à la maison, au travail, sur les marchés, dans les écoles, sont tués et mutilés dans une violence insensée.
Retour sur l'hommage aux victimes du tremblement de terre qui a secoué Haïti il y a 10 ans. Michel Montas, l'ancienne porte-parole de l'ONU, venait de rentrer chez elle à Port-au-Prince. Nous avons eu l'occasion de la recevoir dans nos studios où elle a partagé ses premiers moments marqués d'urgence, de chaos, de solidarité lorsque le goudou-goudou a frappé.
J'étais sur place à Port-au-Prince parce que j'étais rentrée une semaine avant. J'étais théoriquement au traité des Nations Unies. J'ai quitté mon poste aux Nations Unies à la fin de 2009 et j'étais chez moi. Et vers 16h, tout a commencé à bouger. Tout a commencé à être secoué. Et j'étais chez moi, les murs se fissuraient. Nous étions trois dans la maison à nous précipiter dehors avec l'impression que le sol était un gigantesque boa qui bougeait. J'ai un arbre devant la maison qui était penché totalement et qui se redressait. Il y avait un étrange silence. Pas d'oiseaux, pas de chiens. Et puis soudainement, les chiens se sont mis à hurler à la mort. Et je me suis dit que c'était un tremblement de terre, évidemment, bien que Haïti n'avait pas connu de tremblement de terre avant ça, en un siècle. Mais je n'étais pas du tout rendu compte de l'étendue de cet énorme tremblement de terre que nous avons appelé Goudou Goudou en Haïti à cause de ce que ça avait créé comme émotion. Je ne suis pas sortie dans la rue, je suis restée à la maison et j'ai eu des gens qui arrivaient, couverts de poussière. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste ma maison, ce n'était pas juste mon quartier, c'était la ville, Pétionville, que j'habitais, qui était à peut-être 30 minutes de Port-au-Prince. Et au fur et à mesure, on entendait les gens hurler. Les gens hurlaient et priaient, parce que pour eux, c'était la fin du monde. Ce soir-là, je n'ai pas dormi, nous étions tous dans la rue.
Vous n'êtes pas restée à la maison, vous n'êtes pas rentrée dans la maison.
Non, parce qu'on craignait, parce qu'il y avait aussi d'autres secousses qui ont succédé. Chaque 2 heures, chaque 4 heures, il y avait une nouvelle secousse. Et certaines ont atteint 5 sur l'échelle de Richter. Donc le sentiment, quand je suis descendu dans la rue, j'avais pas de nouvelles des Nations Unies, de mes anciens collègues des Nations Unies. J'attendais à dîner ce soir-là, Luis Carlos da Costa et Eddie Anabi, qui étaient les deux responsables de la MINUSTAH en Haïti. Quand je les ai pas vus arriver, bon, je me suis dit, bon, ils ont eu un contretemps, il y a eu des problèmes. Je me suis pas rendu compte qu'il y avait une mission tout entière, 102 personnes. Dans un immeuble, ils s'étaient effondrés sur eux. C'était l'hôtel Christopher qui s'était effondré avec le personnel des Nations Unies. C'est seulement le lendemain que j'ai su. Le lendemain, je suis descendu à pied, j'ai vu des corps échelonnés le long de la route, couverts d'un drap blanc.
Tout le long de la route
vers Port-au-Prince. Et c'était les corps de gens qu'on tirait des bidonvilles. Et par respect, des gens qui n'avaient pas grand-chose prenaient un drap propre pour recouvrir les corps. C'était ce qui nous restait de dignité, de respect. Mais alors, au fur et à mesure que je descendais vers Port-au-Prince, je réalisais que c'était énorme. Des gens dans les rues, en train de hurler, de pleurer, de crier, de prier. Et 3-4 jours comme ça, à essayer d'aider les gens. Il y a une solidarité haïtienne énorme et une solidarité de la MINUSTAH qui était l'organisme sur place qui avait une structure. Nous avions perdu toute l'infrastructure humaine, civile de la mission, mais tout de suite, la mission militaire a réagi pour essayer de retirer les corps. On a trouvé des survivants et les équipes de secours qui commençaient à arriver 3 jours après. Et 4 ou 5 jours après, on m'a demandé de rejoindre la MINUSTAH et j'ai repris service pour les Nations Unies tout de suite après.
La MINUSTAH qui était au cœur de la réponse finalement.
Au cœur de la réponse dès le début, puisque la MINUSTAH, parce que l'aide a commencé à arriver dès que l'aéroport a pu être ouvert, les possibilités de faire atterrir des avions. Et coordonner cette aide venant de tous les pays du monde a été une tâche que les Nations Unies étaient la seule à pouvoir faire ce jour-là. Ce jour-là et les jours qui ont suivi, pendant près d'un an, dans la mesure où l'État haïtien était décimé. Donc le gouvernement n'avait pas les moyens de réagir. Et c'est grâce à l'ONU qu'il y a eu des vies qui ont été sauvées.
Vous évoquez une situation horrible, catastrophique, d'une ampleur inimaginable, mais aussi des élans de solidarité entre Haïtiens, aussi avec la communauté internationale. Qu'est-ce que ça fait de vivre ces deux choses qui sont tellement opposées, même si elles vont de la main quelque part?
Pour moi, regagner l'ONU, ça a été important pour moi, parce que j'ai eu l'impression de sortir du sentiment d'impuissance presque totale. Le sentiment, bon, on aidait ici et là. Ma voiture a servi à transporter des blessés pendant 3-4 jours, mais c'était tellement petit. Être avec l'ONU a permis vraiment de pouvoir aider dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Ceux qui avaient survécu de la mission civile, on voulait les rapatrier. Ils ne voulaient pas, ils voulaient rester. Ils avaient perdu des gens proches, ils ne voulaient pas.
Ils voulaient être utiles.
Ils voulaient être utiles. Et c'est ce sentiment d'utilité que j'ai eu qui, personnellement, m'a permis de sortir de cette espèce de sentiment terrible d'impuissance dans lequel je me trouvais, personnellement. Parce que c'était aussi une façon de rendre justice aux gens qui étaient partis et d'aider les survivants.
Voilà, fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.